Studio Tamani, voici les informations en français.
Les casques bleus tchadiens ont quitté hier le camp d'Aguelhok dans la région de Kidal sans que celui-ci ne soit rétrocédé à l'armée malienne. C'est la seconde emprise libérée par la MINUSMA dans la région. Les travaux de la première édition du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel ont pris fin dimanche dernier à Bamako. Les participants ont formulé des recommandations concernant la sécurité et la paix. La haute autorité de la communication menace de suspendre certaines radios et télévisions privées du Mali pour le retard accusé dans le paiement de la redevance, une décision dénoncée par l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Voilà les grandes lignes de cette édition. Dans un instant, les détails. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis Amsetou Touré à la présentation. Les casques bleus tchadiens ont quitté hier le camp d'Aguelhok dans la région de Kidal. Contrairement à l'emprise de Tessalit, celle d'Aguelhok n'a pas été rétrocédée à l'armée malienne. Une source sécuritaire a confié à Studio Tamani qu'après le départ de la MINUSMA, des groupes armés avaient occupé les lieux avant de se retirer. Khalifa Goïta.
La MINUSMA explique que ce départ anticipé des casques bleus tchadiens d'Aguelhok par les menaces réelles contre eux. Selon la mission onusienne, une partie de ce contingent n'a pas pu être transportée par avion sur Kidal pour être rapatriée au Tchad. Cela à cause de l'interdiction de vol imposée par les autorités maliennes. Ces casques bleus vont donc rejoindre le convoi terrestre de Tessalit dans des conditions périlleuses, regrette la MINUSMA dans son communiqué. Le camp d'Aguelhok est la seconde emprise donc libérée par la MINUSMA dans la région de Kidal après celle de Tessalit. Mais contrairement à cette dernière, l'emprise d'Aguelhok n'a pas été rétrocédée à l'armée malienne. À ce stade, les femmes n'ont fait aucun communiqué sur ce retrait d'Aguelhok. À ce jour, la mission de l'ONU a rétrocédé cette de ses emprises à l'armée malienne conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité. Il s'agit des camps d'Ogossagou, Douanza, Ber, Goundam, Menaka, Anéfis et Tessalit. La prochaine étape de rétrocession concernera les camps de Kidal, Tombouctou, Gao et Sévaré.
Dans un communiqué que nous venons de recevoir, l'armée malienne regrette le retrait précipité de la MINUSMA du camp d'Aguelhok. Elle précise que ce départ n'a point fait l'objet de rétrocession aux forces armées maliennes comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises de la MINUSMA. Selon l'armée, des terroristes ont profité de ce désordre pour s'introduire dans le camp et détruire plusieurs installations ce 24 octobre. Elle ajoute toutefois que ces derniers ont été neutralisés par les vecteurs aériens. Pendant ce temps, la belligérance continue entre le gouvernement et les groupes armés réunis au sein du cadre stratégique permanent CSP. Le cadre des partis et regroupements politiques appelle ces acteurs signataires de l'accord pour la paix, à la responsabilité et au dialogue. Sékou Niamé Bathily, membre du regroupement, est joint au téléphone par Khalifa Goïta.
Nous sommes revenus sur la situation sociopolitique du pays et au niveau de l'aspect sécuritaire, nous avons quand même regretté l'escalade, on peut dire, entre le groupe signataire de l'armée, qui sont les forces de défense et de sécurité maliennes, consécutive aux rétrocessions des emprises de l'AMINUSMA au FAMA. Et le cadre a salué l'engagement des forces de défense maliennes dans la reconquête du territoire national, mais quand même un rappel aux différentes parties de revenir à l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger, parce que nous estimons que c'est cet accord-là qui permet aux différentes parties, qui sont tous des Maliens, d'œuvrer à la paix, à la quiétude et à la stabilité sur l'ensemble du territoire national.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte Twitter. Autre actualité du jour, la Coalition pour l'observation citoyenne des élections COSEM regrette que les travaux de la révision annuelle des listes électorales ne concernent pas les nouveaux majeurs dans certaines localités. Dans un communiqué, elle affirme aussi que les travaux n'ont pas encore démarré dans les régions de Kidal et Menaka. Je l'annonçais dans les titres, les travaux de la première édition du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel ont pris fin ce dimanche à Bamako. Ils visaient à réunir les jeunes panafricains du Sahel pour analyser et proposer des solutions aux défis auxquels les pays du Sahel sont confrontés. Les participants venus des pays du Sahel ont fait 11 recommandations, entre autres la sécurité et la paix avant les élections. Ces jeunes envisagent de remettre dans les jours à venir ses recommandations aux États du Sahel. Ibrahim Bouini Adjabiakoui, président de la commission d'organisation, réagit au micro de Jiadata Maïga.
La jeunesse du Sahel ne veut pas entendre parler d'élections jusqu'à ce que nos pays du Sahel retrouvent au moins une certaine stabilité, qu'on ait une monnaie pour les pays du Sahel. Ils demandent également que les États fournissent des efforts pour l'employabilité des jeunes en privilégiant la formation professionnelle et technique. La jeunesse demande aussi qu'il y ait un référendum populaire entre les trois pays du Sahel pour que les États-Unis d'Afrique puissent voir le jour. Et pour que la sécurité revienne, les populations demandent à ce que la formation militaire soit obligatoire dans tout nos pays, mais aussi que l'État fasse les efforts pour qu'il y ait un dialogue entre les communautés.
Quatre membres du Conseil national de transition ont été suspendus hier. Le CNT justifie cette suspension par des absences non justifiées lors des travaux de commission et des séances plénières de la session d'octobre 2023. Dans la même journée, Mahamadou Diarasouba a aussi démissionné pour se mettre à la disposition de la justice. Il est poursuivi pour atteinte aux biens publics. Autre titre de ce journal, la Haute Autorité de la Communication menace de suspendre certaines radios et télévisions privées du Mali. L'Autorité de Régulation des Télécommunications reproche à ces médias le retard accusé dans le paiement de la redevance. Une décision dénoncée par l'Union des Radios et Télévisions Libres du Mali, URTEL. Dans un communiqué publié ce week-end, son président exige l'annulation de cette décision. Plus de détails avec Ali Cissé.
L'URTEL qualifie cette décision de la hack de Hatif. Le président de l'organisation évoque plusieurs raisons qui justifient selon lui ce retard. Mamoudou Bokoum, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
Vous savez, il y a plusieurs raisons qui ont fait que les radios et les télévisions sont en retard de paiement. D'abord, il y a eu l'apparition de la maladie à coronavirus. Ensuite, il y a les sanctions de la CEDEAO. Et enfin, le remerciement de certains partenaires. Voilà, entre autres, quelques raisons qui ont fait que les radios et télévisions sont en retard de paiement des redevances.
Des arguments balayés du revers de la main par la Haute Autorité de la Communication. Son président Gaoussou Koulibaly rappelle que le paiement de la redevance est une disposition réglementaire.
Au marché tout de suite, un commerçant installé de la place qui a été victime de la COVID-19, de l'embargo et tout, est-ce qu'il peut refuser de payer ses impôts au motif qu'il y a eu COVID-19, il y a eu embargo contre le Mali? Non. Tout ce qu'il peut faire, c'est demander un moratoire. Mais il y a des conditions. À cette date, il y a au moins 36 radios qui ont bénéficié de ces moratoires. On est dans un processus de concertation avec l'URTEL et toutes les fêtières. Mais on n'est pas dans un processus de co-gestion. Il faut que chacun reste dans son rôle.
Le président de la HAC rassure que l'organe de régulation veillera au respect des textes.
À présent, le dossier de la semaine. La solidarité est une valeur cardinale de nos sociétés. De nos jours, les actes de solidarité envers son prochain ont diminué. Cette situation s'explique par plusieurs raisons, dont des arnaques autour de la mendicité selon les citoyens. Quelle peut être la valeur de la solidarité de nos jours? La réponse dans ce dossier de Fadi Talfi Maïga.
La solidarité consiste à aider son prochain dans le besoin. Cette tradition perd de plus en plus sa valeur dans notre société. Au nom de la solidarité, les gens se font arnaquer à longueur de journée. Des victimes témoignent.
J'ai été victime d'arnaque. Un jour, une femme qui s'est fait passer pour une madjante m'a demandé de l'aide en pleurant. J'ai été obligée de lui donner mon argent de popote. J'ai aussi vu une femme qui s'est fait passer pour une veuve.
Des fois, ils disent qu'ils sont malades juste pour soutirer de l'argent aux gens.
Nous-mêmes, nous sommes pauvres, mais on leur donne de l'argent à cause de Dieu.
Selon les sociologues, ce phénomène qui prend de l'ampleur est lié à plusieurs facteurs, notamment la précarité dans nos familles, mais aussi des facteurs liés aux difficultés économiques. Ces arnaques impactent la solidarité dans notre pays, selon le sociologue Yacouba Dogoni.
Parce que là, les gens vont peut-être penser que tout ce qui se trouve dans la société, dans la rue, ne sont pas forcément dans les besoins. Et du coup, ça va vraiment pousser les gens à faire une sélection type alors des personnes qui sont en incapacité. Alors qu'on peut être un travailleur aujourd'hui, mais ne pas être en capacité de pouvoir se donner à ses besoins.
Pour les traditionnalistes, c'est dû au manque d'éducation, parce que les jeunes s'adonnent à la facilité. La solidarité a perdu sa valeur d'antan, affirme Mamadou Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste.
De plus en plus, il y a les caractères d'hommes et de femmes qui sont de plus en plus faibles. Il y a la faiblesse dans l'éducation, dans tous les villages. Il y a les voisins. On se connaît entre nous. Qui a de l'argent, qui n'a pas d'argent, qui tu veux être vraiment solidaire. Et donc, il faut d'abord commencer par les voisins. Le problème aujourd'hui à Bamako, dans les grandes villes, dans les capitales régionales, où là, c'est quand tu es dans la rue, on vient te demander.
La solidarité est un principe fondateur de l'islam. Au nom de la religion, cet acte d'entraide ne doit pas être facteur d'arnaque, selon l'imam Moussa Touré.
La solidarité dans l'islam est très importante. Mais de nos jours, les gens aiment l'argent facile. Ce n'est pas une recommandation de l'islam. Se faire passer pour quelqu'un qui est dans le besoin et demander de l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Les gens doivent arrêter cela.
Notons que le mois d'octobre est consacré à la solidarité dans notre pays. Pendant ce mois symbolique, des actions sont entreprises pour aider les personnes démunies.
Retrouvons à présent Imrana Kilumaiga pour nous introduire le Grand Dialogue. Bonsoir Imrana.
Bonsoir Amsatou.
Alors de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Les coupures d'électricité au Mali, un calvaire sans fin. On en parle avec Agaraba Adjalo de l'Association des professionnels d'électricité au Mali, Clément Dembélé de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, et El Hadj Dantouma Koïta, vice-président du Sinacodem, syndicat national de commerçants détaillant, qui sera au téléphone.
C'est noté. Vous pouvez retrouver ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani. Vous pouvez télécharger cette application sur Play Store. C'est la fin de cette édition. La mise en onde a été assurée par Philly Dambélé. Dans un instant, le magazine Toutes les femmes du Mali. Au Mali, après le décès du mari, l'épouse doit observer une période appelée veuvage. Elle s'étale sur 4 mois et 10 jours et permet de savoir essentiellement si la femme n'attend pas un enfant du défunt. Il existe cependant de nombreuses pratiques autour du veuvage en fonction des religions, des cultures et des traditions. Le magazine Toutes les femmes du jour s'intéresse à la thématique. Il est réalisé et présenté par Fatmata Kodio avec le concours de nos correspondants.
Madame Arama Umutesugi, domiciliée à Bankas, a perdu son mari un mois et demi environ. Pendant le veuvage, son alimentation et son habillement changent. Elle nous explique le veuvage chez les Dogons.
Chez nous, les Dogons, après le décès du mari, la femme doit observer d'abord 3 jours dans la chambre. Les frères du défunt achètent une nouvelle natte, un tissu bleu. La tante maternelle étale la natte. On lave la veuve et on lui fait porter le tissu. On achète aussi un nouveau bouillard, des sandales. Elle ne mange pas avec les autres. Seules les femmes qui sont veuves peuvent s'asseoir à côté d'elle sur la natte. Elle ne touche à rien avant la fin des 40 jours.
Les femmes de Kouri n'échappent pas non plus à cette période de veuvage. Néanmoins, elles martèlent certaines difficultés, comme en témoigne cette veuve de Kouri.
Je vis à Kouri. Au décès de notre mari, nous avons fait la période de veuvage à la maison. Une vieille dame nous assistait durant cette période. Même quand j'allais aux toilettes, c'est elle qui me conduisait. Les difficultés ont été durant les 3 premiers jours du décès. On n'adressait la parole à personne. On restait seul dans la chambre en portant des habits de veuvage. À la fin des 3 jours, on a commencé à sortir pour échanger avec les gens.
Des traditionalistes affirment que le veuvage permet de préserver la femme des regards des autres hommes. Ainsi, pour rompre définitivement les liens du mariage, la femme passe par des étapes. Jara Dembaga, traditionnaliste à Kay.
La veuve doit être dans la chambre, mais si elle n'est pas assistée, elle est obligée d'aller travailler. Mais elle doit quand même se couvrir. Avant, les veuves portaient du tissu noir, mais actuellement, elles peuvent acheter des légers, puis coudre 2 modèles qu'elles peuvent échanger chaque 3 ou 4 jours. Et cela jusqu'à l'écoulement du délai de veuvage. Et c'est après cela que la femme est libre.
Ces pratiques ne sont pas obligatoires chez les musulmans. Cependant, la femme se réserve de poser certains actes, nous souligne l'imam Amadou Djankumba.
La veuve ne doit en aucun cas promettre à qui que ce soit le mariage après son veuvage. Ensuite, la veuve ne doit poser aucun acte qui pourrait ternir son image ou porter préjudice à sa personnalité. Il n'a été dit nulle part qu'il y a un moment spécial pour la veuve de prier ou un plat spécial qu'elle doit manger. Cela n'est pas vrai. Il ne faut pas traumatiser une veuve.
La religion chrétienne abonde dans le même sens. Cependant, Abbé Jean-Baptiste Djara explique qu'il n'y a pas de période fixe pour le remariage de la femme.
Il y a un autre saint, Saint Jérôme, qui dit que le veuf ou la veuve peut ne pas se remarier. Que de considérer le veuvage comme un temps de chasteté, un temps qu'on donne à Dieu de vivre comme ça. Ce qui serait mieux, c'est d'être en résidence. Bon, mais la personne n'est pas esclave dans l'église.
Le code des personnes et de la famille régit le veuvage au Mali. En effet, le droit malien protège ses veuves en leur accordant l'habitation du logement familial. Docteur Gabriel Camara.
En cas de décès, la femme, ou du moins la veuve, a automatiquement le droit sur le logement familial, à savoir le code des personnes et de la famille à travers l'article 101, essaie de donner une certaine protection à la veuve. Mais ce droit peut cesser lorsqu'elle a eu un autre mari.
Par ailleurs, durant la période de veuvage, le port d'une tenue spéciale n'est pas obligatoire selon des traditionalistes.